Odora.
Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne.
Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Eau de Radio, de Radio, la radio des Hautes-Garonne. Et on est ravis à nouveau de vous retrouver, bien sûr, comme chaque jour, du lundi au vendredi, voilà, y compris les jours fériés. Je ne parle pas forcément pour aujourd'hui, hein, c'est ce soir, bien sûr, qu'on peut parler de fête. Voilà, mais on va en parler avec nos invités. Voilà, on va juste, avant d'annoncer le sommaire de ce journal, rappeler comment nous suivre. Hein, ce sont des prérogatives de l'ARCOM. Voilà, c'est important de respecter le siglage. Donc, 411.3, la bande FM depuis le mois de juin 1997. On peut nous suivre également via notre site odoradio.fr. Comme tout site internet, bien sûr, il vous donne beaucoup d'infos sur la vie de la radio, des reportages, voilà, la possibilité de venir en temps de voir télécharger toutes nos émissions et plein d'autres infos. Et troisième moyen de nous suivre, troisième vecteur de communication, hein, c'est le DAB+. Hein, vous avez certainement remarqué cet acronyme anglais qui est collé à la plupart des radios, pour ne pas dire quasiment toutes. Et c'est la radio numérique terrestre. Voilà, il faut être équipé. Ça tombe sous le sens du poste récepteur adéquat et être en métropole bordelaise. Voilà, ce rappel récurrent. Réalisé, on va annoncer à la fois le sommaire du journal et du magazine à suivre. Sur la partie journal, bien, vous allez entendre des voix qui vous sont certainement familières. Voilà, parce que là, j'ai des complices aujourd'hui, Alexis et Jérémy. On va développer, hein, parce que comme ça, on va faire un petit lien avec l'engagement. Et vous allez voir qu'ils sont très, très engagés, avec des passions néanmoins communes autour du sport et du foot en particulier. On va en parler dans quelques instants. Et en ce mercredi 24 décembre, là, sur la partie musicale, un petit clin d'œil. Hein. Et là, on écoutera Bob Geldof. Voilà, mais il n'est pas seul, hein, avec la chanson Do They Know It's Christmas. Voilà, j'essaye pour l'accent. Et c'est une chanson que tout le monde a dû plus ou moins fredonner, qu'il avait écrit l'ancien chanteur des Boomtown Rats, voilà, un groupe anglais. C'était en 1984 pour lutter contre la famine en Éthiopie. Et autour de lui, bien des jeunes artistes à l'époque, hein, comme Bono, hein, le leader de U2, George Michael, Boy George, et Sting également présent. Voilà, c'est un petit clin d'œil à l'engagement, et puis pour marquer ce 24 décembre. Et on retrouvera, attention, exceptionnellement, les jeunes reporters européens. Voilà, pour la 11e année, eh bien, on est ravis de retrouver ces jeunes ambassadeurs des valeurs éco-citoyennes et européennes pour ce magazine réalisé en partenariat avec la MEBA, la Maison de l'Europe Bordeaux à Aquitaine. Et là, mardi dernier, ils étaient venus nous parler des célébrations de Noël et du Nouvel dans quatre pays différents. Il y avait pour la Pologne Julia, pour l'Allemagne Karl, pour l'Espagne Enrique, pour la Géorgie Picria. Et voilà, on trouvait que c'était d'actualité, donc on rediffuse, mais ça reste parfaitement d'actualité. Je l'ai déjà dit, ce mot. Et voilà, petit clin d'œil à tous nos jeunes reporters européens. Voilà pour le sommaire. Et tout de suite, eh bien, je vais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Alexis Rocher, pour le patronyme, bonjour, bienvenue chez vous.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, et Jérémy Lalanne, ça fait quelques années que vous n'êtes pas venu vous exprimer, mais s'il y a quand même au moins un rendez-vous annuel, mais on en reparlera. Jérémy, bonjour, bienvenue, et je suis enclin à dire aussi chez vous, hein, parce que vous connaissez bien la maison Eau de Radio. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Voilà, mais on va développer pourquoi quelques liens forts. Voilà, puis aujourd'hui, voilà, c'est pas que du copinage, voilà, c'est pas parce qu'on se connaît, mais c'est vrai qu'on mène en ce moment notamment une action sur l'engagement. On a eu plusieurs émissions avec des responsables associatifs, mais pas que. Et juste avant qu'on puisse développer, alors Alexis, par exemple, on pourrait rappeler, hein, président et joueur du Phoenix Foot Fauteuil, oui. Dirigeant à l'US Bousca, animateur aussi à Eau de Radio. Or, si on parle d'engagement au sens large, quand on parle de foot, et c'est vrai qu'il y a toujours une petite émotion quand on parle de l'US Bousca Football, parce que c'est une histoire familiale. Hein, donc, on vous a donné le goût à cet engagement de s'investir, s'impliquer bénévolement pour les autres ?
Oh, le lien avec l'USB Football, je peux le rappeler, c'est que mon grand-père a été président pendant plus de 30 ans. Donc le lien est assez facile. Et après, c'est surtout l'amour d'un club. Et effectivement, après, quand on aime quelque chose, c'est plus facile pour s'engager. Ouais.
Alors justement, quand on parle d'engagement, en général, on compte pas son temps.
Non.
Donc ça, des fois, vous vous dites, tiens, oh, j'ai passé tant d'heures sur une action, ou vous le faites parce que voilà, c'est l'altruisme. C'est un adjectif qu'on a souvent dans le milieu du football. Dès qu'on veut placer un mot un petit peu ça, oui. Mais c'est, voilà, c'est donné pour les autres, c'est de la solidarité.
Non, si on commence à compter ses heures et à réfléchir, bon, aujourd'hui, je vais faire ça, on le fait plus. Donc on compte plus et on fait.
Mais qu'est-ce qui vous motive encore? Parce que là, vous êtes dirigeant, bon, avec le Phoenix Foot Fauteuil, vous êtes des deux côtés en tant que oui. joueur, mais également impliqué. Alors, il y a des hauts et des bas, hein, parce que quand, oui. À un moment donné, on a des soucis, quand on n'a plus de lieu pour s'entraîner, qu'il faut se battre, après, il faut des soutiens. Donc, ce n'est pas tous les jours facile, mais vous êtes là. Hein.
Non, mais moi, si je m'engage, c'est que j'ai un côté, j'aime bien employer ce terme pour le Phoenix Foot Fauteuil surtout, c'est du militantisme pour les personnes handicapées, je le revendique, sans aucun problème.
Mais bien sûr, on va développer un petit peu d'ailleurs, hein. Phoenix Foot Fauteuil, donc vous avez fondé ce club.
Oui.
Là vous êtes président parce qu'aussi il faut prendre des rôles, vous êtes joueur, c'est toute une équipe, hein, sans jouer, sans faire de jeu de mots.
Oui.
Alors en quelques mots, cette histoire du Phoenix Foot Fauteuil.
Eh bien, c'est passé entre Noël et le jour de l'an de 2020, on est dans la période de Noël.
On est bon.
Où j'ai pris la décision de créer cette association qui est donc née le 15 janvier 2021. À la suite de ça, on a pris des contacts avec pas mal de gens. Et depuis 5 ans qu'on existe, on est sur une montée sportive et plus de 15 personnes ayant effectué du foot fauteuil dans notre club.
Alors c'est vrai que c'est une belle action, hein, que vous menez. Alors que des personnes en situation d'handicap, garçons, filles,
oui.
Là pour l'âge, il n'y a pas de discrimination. Donc on recherche toujours, d'ailleurs ça fait partie des questions récurrentes, on recherche toujours des joueuses, joueurs.
Oui, 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 on recherche des joueurs et joueuses, mais surtout ça se perd depuis quelques années maintenant. Avec Jérémy, on sait ce que c'est.
Il va en parler également.
Des bénévoles, surtout.
Bon.
C'est le nerf de la guerre pour poursuivre l'activité, parce que c'est aussi un lien familial. Je fais ça avec toute ma famille, donc si on n'est pas là, je ne dis pas que le club se meurt, mais un peu quand même.
Voilà, c'est important ce message. Donc des joueurs, bon, si certains veulent participer, parce que c'est vrai que... C'est pas toujours simple quand on est en situation de handicap.
Oui.
Bien sûr, au quotidien, ça, on n'ouvrira pas toutes les fenêtres, sauf si vous voulez aborder certains sujets, bien sûr, parce qu'on en a déjà parlé. Mais le sport, ça véhicule quand même de belles valeurs. Alors c'est vrai qu'on voit néanmoins sur certains terrains toujours pas de belles images dans certaines disciplines sportives, alors que le sport doit véhiculer le respect, le fair play, respecter son adversaire.
Je vais parler pour moi et pour ma situation d'handicap. Ça a été pour moi un vecteur de lien social.
Très fort.
Et de me permettre d'être dans la vie... de tous les jours, normal, je n'aime pas employer la vie normale,
ouais, mais au moins on se comprend.
Mais on peut le dire, et il est vrai que pour faire un lien avec l'USB Football, le fait d'être quasiment né sur un terrain de foot m'a permis de voir du monde et de m'épanouir dans le milieu associatif et sportif.
On va continuer à en parler, comme ça va permettre d'avoir un échange croisé.
Oui.
Alors, Jérémy, comme Alexis, hein, dirigeant d'un côté, joueur de l'autre. Mmh. Alors, quand on parle d'implication, parce qu'on se connaît bien, hein, bien sûr, et je répète, ce n'est pas du copinage, parce que là, il y a ce lien avec l'engagement et des actions que vous menez. Donc, je sais tous les deux voilà, qu'il y a des passions pour le sport, vraiment le foot en particulier. Mais de là s'engager, Jérémy, parce qu'on pourrait, entre guillemets, se contacter, contenter. Je vais y arriver d'être joueur, mais là d'être dirigeant aussi, de donner de son temps, son regard. Ça, c'est Alexis. Bon, il y avait cette historique entre guillemets familiale. Vous vient d'où? C'est de pouvoir aider les autres dans un sport que vous affectionnez. Il y a eu un déclic pour devenir dirigeant Comment on devient dirigeant, en fait, hein,
déjà,
bénévole,
ça
hein.
a commencé à Gradignan, au Coq-Rouge. En fait, je faisais une journée épilepsie, avec différents sports. Il y avait le foot, basket et différentes choses. Comme c'est un grand domaine Moulérens, donc du coup, j'ai commencé là et j'ai rencontré sur le domaine de l'activité foot, quelqu'un qui m'a dit, si tu veux rejoindre les Coq-Rouges, il n'y a pas de souci en tant que joueur et coach. Donc j'ai commencé en 2016 à coacher donc les U6, U9, plus joueur en D3, voilà, à 11. Et de ce fait, j'ai continué à être dirigeant du coup en R3 avec l'équipe première des Coq-Rouges. Et du coup, je suis parti dans un autre club aussi. Et actuellement, je suis au SAM, dirigeant avec la réserve de R3.
Expliquez le SAM, hein, c'est l'équipe de Mérignac. Hein.
Mérignac, c'est ça, c'est pas
voilà, c'est Mérignac. Si ils nous écoutent, bon, ils vont comprendre, voilà. Mais c'est un petit clin d'œil.
Mérignac, hein. Donc dirigeant de la réserve depuis janvier de l'année dernière. Donc du coup, actuellement, on est premier de R3, 27 points. Derrière la Bred. Donc voilà, il faut continuer, il faut pas lâcher parce que c'est important de. Nous, on vise clairement la montée et il faudra pas lâcher en janvier-février, ça c'est sûr. Et je remercie encore le club de tout ce qui s'est passé sur l'organisation, en tout cas de chaque tour de Coupe de France pour l'équipe première et puis voilà pour l'accueil. Je les remercie encore et. Et voilà, c'est sûr qu'on est dirigeant, il y a beaucoup de choses autour du terrain et sur le terrain. Et des fois, c'est pas très positif. Mais il faut vraiment voir le côté positif et voilà, essayer d'avancer les choses pour pas que ça. Voilà, parce qu'il y a eu des matchs où ça. Pas notre club, mais il y a dans des clubs où ça s'arrête complètement le match à cause des débordements inutiles pour moi. Voilà.
Voilà, ça c'est un autre débat, mais il faut surtout pas l'occulter. Hein. C'est vrai, on va le rappeler. Oui. Il y a certains parents qui souvent sont très excités autour de la pelouse. Alors si leur fils ou fille, hein, là on le voit, nous on est à côté d'un pôle d'excellence, un complexe holistique Odoré avec beaucoup de filles. Et quand souvent les parents pensent que voilà, leur enfant est le futur Zidane ou Mbappé, c'est pas toujours évident. Non. Après, à une certaine échelle, l'arbitrage n'est pas du tout respecté non plus. Oui. Donc ça donne... Mais ça, je voudrais effectivement... On ne l'occulte pas, hein, parce que Alexis nous parlera des émissions qu'il anime autour du sport. Oui. Donc ça, c'est à aborder dans d'autres moments. Hein, pas qu'on veuille occulter. Hein, j'insiste là-dessus.
Il n'y a pas de souci.
En tant que joueur, alors, oui. Parce que là, Alexis, donc joueur du Phoenix Foot Fauteuil, oui. Ou c'est à Bel Air.
Bel Air, c'est ça.
Donc, à Tresse, c'est sur ça, notre belle rive droite. On est un petit peu chauvin, les gars.
C'est
attention.
Ça.
Quel niveau, quel poste?
Alors, je joue défenseur et milieu.
Mais vous n'étiez pas avant-centre, Jérémy?
Avant.
Je connais tout, j'ai la vignette Panini. Là,
avec l'âge, j'ai recul.
Avec l'âge, j'ai recul. Mais...
bravo, Alexis.
Du coup, mais... Alors, ça fait depuis 2016 que je fais du sport adapté.
Alors expliquez-nous justement le sport adapté en quelques mots, à qui ça s'adresse plus particulièrement, qu'on comprenne mieux.
Souvent pour les maladies des gens qui sortent souvent d'hôpital, tout ça. Bon, après je connais pas les contextes réels.
Oui, pas tout le détail, mais dans la grande ligne.
En gros c'est ça, et ceux qui ont des maladies invisibles, comme moi. Et ça j'ai fait plusieurs clubs. En sport adapté, je commence depuis 2019, je crois, juste avant le Covid. Et voilà, on a en gros, on a un championnat par mois.
C'est-à-dire un match par mois, vous voulez dire
Oui, un match par mois avec des plateaux, comme les enfants, des plateaux. Et on se rencontre. Et moi, je joue au niveau 1, le niveau le meilleur de la région.
Bon. Donc, mais j'ai que des champions autour de la table. Oui, c'est faut le...
Et je joue le 10 janvier à Arlac. S'il y a des personnes qui veulent venir me voir.
Voilà, il a déjà anticipé. Voilà. Donc là, sur le championnat, il y a combien d'équipes ? Donc on parle de sport adapté. Il y a combien d'équipes dans le championnat dans lequel vous êtes présent ? Donc,
il y a au moins il y a très peu d'équipes, donc on va dire une vingtaine à peu près.
Et là, ça se joue à l'échelle départementale, régionale ?
Le niveau 1, en fait, il y a 4 équipes qui peuvent être sélectionnées pour le championnat de France qui se déroule l'année prochaine, je ne sais plus l'endroit exactement, Limoges, voilà, je vais trouver, Limoges. Et les 4 équipes, s'ils ont les finances nécessaires, ils vont au championnat de France, ils rencontrent d'autres équipes d'autres régions. Et là, il y a pas mal d'équipes, et dont il y avait l'année dernière l'OGC Nice, qui avait une équipe de sport adapté. Il y a Barcelone aussi qui a une équipe de sport adapté. Il y a plusieurs équipes qui se développent, voilà, dans des clubs plus élevés et même pro, voilà.
J'allais justement vous donner la main.
Saint-Étienne est précurseur dans ce domaine. Où c'est vraiment la Saint-Étienne qui finance le club de football. Et je prends exemple, le dernier week-end de foot fauteuil en décembre qui a eu lieu à Saint-Étienne, au domaine de l'Etra, là où s'entraîne la SSE d'ailleurs. Le propriétaire canadien était présent lors du derby face à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est que quand même l'handisport se développe.
Et heureusement, alors justement, une question qui vous concerne d'ailleurs tous les deux, parce que sur les financements, alors on sait que c'est très compliqué déjà dans le sport de masse, alors qu'on le sait que dans le sport, les équipes nationales, etc. Bon, ça dépend bien sûr certains États, certains pays. C'est souvent le nerf de la guerre. Il y a quand même quelques. Alors, on en avait déjà discuté, bien sûr, à Alexis, parce qu'on le voit chacun dans vos spécificités. Il y a des besoins différents. Parce que là, Alexis, quand vous parliez, là, vous avez été joué près de Toulon, ou à Toulon même.
On va à Saint-Étienne dans 2 mois.
Voilà. Et là, quand. Vous partez, c'est toute l'équipe des dirigeants. Et là, sur le financement, vous partez comment ? Parce que là, vous êtes à une échelle au-dessus, vu que vous êtes monté. Oui. Donc là, ça se déroule à l'échelle de la France. Donc comment on se déplace et quels moyens il faut avoir ?
Location de véhicules.
Donc là, il faut par exemple, quand vous êtes parti à Toulon, c'est combien de véhicules à louer ? Et là, c'est sur tout un week-end, donc il faut compter le temps de trajet aller-retour. On a des soutiens sur le sport adapté, parce qu'on parle beaucoup, on entend souvent, puis là, avec les élections qui arrivent, on a eu l'occasion, vous avez animé, d'ailleurs Alexis, on fera un coucou à Guy, puis on parlera des émissions, mais là, dans le cadre de la quinzaine de l'égalité, la diversité, on avait on n'a pas pu aborder tous les sujets, mais est-ce qu'il y a des aides financières ? Alors, je sais qu'il y a des associations qui aident, ça peut être en conseil administratif, et autres. Mais là, sur le nerf de la guerre, c'est toujours faut se remonter les manches. On peut avoir des partenaires privés, publics. Est-ce qu'il y en a des soutiens de...
Aujourd'hui, on va pas faire de la politique ici.
C'est juste dire quelques mots, bien sûr.
On n'est pas là pour ça, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Donc, on se tourne surtout vers du privé, aujourd'hui. Parce qu'on sait que dans le public, il y a de moins en moins de possibilités dû aux problèmes et d'aide, effectivement, comme vous dites.
Donc là, Jérémy, vous, ça vous parle, les problèmes ? Parce que quand on est joueur, c'est pas nous forcément de gérer cette partie-là, mais pour Bel Air, on arrive à toujours trouver des moyens. Là, vous êtes à Tresse, vous le rappelez, sauf si c'est un aspect que vous ne maîtrisez pas, bien sûr, Jérémy.
Mais c'est toujours la même chose.
Pour les déplacements, c'est la même chose, il faut
des
moyens.
Des minibus, et après... Si je m'abuse, il faut au moins 2 accompagnateurs. Donc,
oui, parce qu'il y a une législation.
Voilà, c'est ça.
Et aussi pour respecter. Le confort.
Voilà, c'est ça. Bon. Il y a des lois, on va dire, d'accompagnement. Et c'est, en général, c'est 2 minibus. Et quand on arrive sur les plateaux, on joue le matin. Le midi, ou entre midi et 13h, on mange. Et c'est notre repas à nous, bien sûr. Après, ça, c'est différent. Il y a des clubs qui fournissent, mais il y en a d'autres, non. Et surtout, en fait, les déplacements, les frais, viennent surtout sur les minibus. Voilà, parce qu'on va à Bayonne, on va à Sauvagnon, on va à différents endroits et des fois c'est très compliqué. Et c'est vrai que ça arrive que des clubs ne peuvent pas partir au championnat de France à cause de ça, parce qu'il manque d'aide financière.
Et ça, c'est valable pour tout le monde. Hein. Ça, oui. Une fois de plus, voilà. On ne veut pas ouvrir les débats. Certains clubs ne montent pas parce que les enjeux financiers, parce qu'en général, le premier partenaire, ça peut être la ville. Voilà. Mais c'est l'histoire de dire quelques mots parce que là, l'heure tourne. On va se projeter un petit peu sur l'actualité et l'avenir. Donc, concernant Alexis, le foot fauteuil, donc oui. Rappelez-moi, Saint-Étienne, hein, prochain match.
Oui, au mois de février. 12, 13 et 14 février.
On part confiant ?
On part toujours confiant, sinon on n'y va pas.
Voilà, mais je me doutais que vous allez me dire ça.
Et puis il va falloir ramener quelques points parce que le premier week-end n'a pas été fructueux.
Bon.
Donc là, si on veut, on a clairement l'objectif de se maintenir, hein, vu qu'on arrive dans cette division.
Vous êtes monté, et puis on rappelle, hein, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas pu vous entraîner. Oui. Il y avait des travaux.
J'avais une question, etc.
Oui, mais allez-y.
La question, il y a dans quel niveau tu es et combien de niveaux il y a ?
En fait, il y a 4 niveaux. Il y a un niveau régional ou Grand Ouest pour la D4, c'est le niveau auquel on était la saison dernière. Et après, il y a 3 niveaux nationaux.
D'accord.
C'est comme si en football, on était en national.
Voilà. Tout c'est simplement. Pas mal.
Voilà. Allez, l'objectif des Girondins, entre parenthèses.
Sur l'actualité, oui. On va rappeler. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je faisais ce lien avec l'engagement. Donc, vous êtes passionné de radio, Alexis.
Oui.
Vous n'allez pas nous donner tout ce que vous avez fait en tant que journaliste, animateur radio. Vous étiez justement au dernier match du SAM, même si
oui.
Un petit peu comme l'équipe dont vous alliez parler n'ont pas passé le dernier tour.
Oui.
Mais comme on est toujours là pour être positif dans le cadre de l'actu, donc reprise à. Là, c'est un petit peu la trêve des confiseurs, hein. C'est une paire de festives, on fait un petit coucou à Guy, donc toujours debout au deux sport show. Là c'est également c'est votre engagement, donc
oui.
Avec un sujet autour de l'handicap, le sport, et puis après ça peut être évidemment un lien fort entre les deux. Donc,
après pour être honnête, moi c'est surtout l'émission
on
toujours
va être
debout
honnête.
qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que le sujet du handicap, tout le monde en parle, mais au final il se passe pas grand chose. Je pense qu'avec Guy, on essaie de le traiter du mieux possible. Et en tout cas, depuis un an et demi, on a plaisir avec Guy à le faire et on va espérer que ça se poursuive du mieux possible.
Voilà, mais il n'y a pas de souci. Puis c'est vrai que vous abordez tout sujet.
N'est-ce pas ?
Oui. Oui, non, mais c'est important. Mais c'est la vie. Parce que l'émission n'a pas forcément la prétention de changer le monde.
Non.
Mais peut y contribuer déjà en abordant. Parce que regardez, au travers de l'engagement, on parle souvent dans les dossiers de personnes invisibilisées. Tout le monde ne peut pas s'exprimer. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais il ne faut pas qu'il y ait de tabou.
Non.
On peut aborder tous les sujets, c'est ce que vous avez fait.
Oui.
Là, pour la rentrée, il y a quelques thématiques ou sans forcément me donner une date avérée, mais des sujets peut-être
Les grosses thématiques, c'est qu'on va revenir sur la grande réforme des fauteuils roulants
depuis le 1er décembre.
Qui a lieu depuis le 1er décembre.
Mmh.
Et on va avoir des invités qui ont poussé pour cette réforme-là, à savoir que même si on m'a dit à plusieurs reprises que c'était pas la réforme initiale qui était prévue, mais la réforme a eu lieu quand même. Donc voilà, ne serait-ce que pour le handicap, ça sera le gros sujet de janvier. Et puis pour le sport, on va avoir la capitaine du SAM handball, parce qu'il faudra en parler, malheureusement, qui a eu des soucis financiers l'année dernière et qui automatiquement descendra en National 3 la saison prochaine.
Voilà pour quelques sujets. Vous, Jérémy, sur l'actualité, parce que là on parlait d'engagement en tant que dirigeant, bon, on comprend bien, etc. Après la musique, ça c'est une passion.
Oui.
On est quand même engagé, hein, parce que la musique c'est s'engager sur des répétitions. Voilà, si on doit être présent, ça se matérialise à tous les niveaux, hein, pour les concerts, trouver une salle de répétition, les concerts, etc. Donc là, quelques mots sur votre groupe.
Alors, mon groupe actuellement, donc Uncover.
Attention, il faut bien prononcer.
Uncover. C'est donc.
On fait un petit coucou à tous les musiciens.
C'est
hein.
ça. Donc, c'est le groupe a commencé avec, du coup, le, le guitariste et le chanteur qui sont rencontrés. Nous faisons des reprises...
D'où le nom du groupe.
Voilà,
le
exactement.
Cover, c'est...
Nous faisons des reprises, du coup, folk rock. De la suite, il y a eu, du coup, la violoniste qui est arrivée. Plus moi qui est arrivé en juillet dernier. Et on a une choriste en plus pour finir le fait de travailler les voix. Beaucoup de voix sont travaillées, dues à des morceaux vraiment où il y a des chœurs, tout ça, et donc c'est beaucoup de travail. Pour l'organisation des répétitions, on répète une fois par semaine. Voilà, à Pessac, à Brossard. Et nous avons joué vendredi, dont à Brossard, pour le concert de Noël. Et on remercie encore pour l'organisation. Donc voilà. Et après, on peut nous suivre sur le Facebook, Uncover 33, qui est tout neuf. Mais voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, il y aura d'autres dates de prévues pour 2026. Mais pour l'instant, c'est la surprise.
Voilà. Mais on va rester là. On n'hésitera pas à vous réinviter parce que là, je regarde l'heure, il faut qu'on tienne. Alexis va s'exprimer aussi. Une petite question, on en a parlé un petit peu en amont. Parce que voilà, je fais toujours ce lien avec l'engagement. C'est vrai qu'on a pu organiser deux soirées. Hein. C'était en début d'année de 2025 en faveur d'Épilepsie France. C'était à la M270, la Maison des Soirs partagée à Florac. Et il y a eu un autre événement à Lormont. Voilà, on fait un petit coucou à la fois à tous les membres de la M270 ainsi qu'aux gondoles à Lormont. Donc quelques mots sur l'épilepsie que vous y vivez. Donc là, vous êtes engagé une fois de plus. Alors certes, on peut se dire, je suis venu faire la musique qui est ma passion, mais au travers de ces soirées, ça a permis de parler d'épilepsie. Moi, j'ai rencontré... on fait un petit coucou à Gilles Guibert,
Gilles, hein, oui.
Bien sûr. Et j'ai pu rencontrer des personnes qui ne vont jamais dans les soirées, dans les concerts, de peur d'avoir une crise ou le regard. Hein, parce que ça, c'est vrai que dans la vie, même si on est un petit peu on se construit une carapace, c'est pas toujours évident. Et là, on a vu au travers de ces soirées qui payent pas de mine, mais des personnes ont pu venir boire un coup, chanter, pourquoi pas danser. Donc quelques mots sur l'épilepsie, puis on va conclure, hein, parce que là il
alors
faut
l'épilepsie c'est vraiment une maladie
invisible.
Et il y a le fait aussi, parce que les personnes vont forcément pas venir parce que il y a le fait aussi que les lumières, ça peut faire monter les crises. Donc souvent les
ça
crises
peut
c'est
contribuer,
se coucher tard, être stressé, pas assez dormir, ça souvent ça arrive à ça, et d'autres causes, on va dire des causes de la vie qui font que, par exemple, on peut pas être épileptique à la naissance. Mais on peut y arriver petit à petit. Je cite bien R9, le Brésilien, était épileptique en 98. Ils avaient annoncé ça pour la finale de la Coupe du Monde.
Voilà, on va s'en rester là parce qu'on n'aura pas, mais on aura une émission à l'occasion de la journée. Oui. Et puis c'était bien de pouvoir en dire deux mots. Jérémy, bah écoutez, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite, hein, que ce soit en tant que dirigeant, en tant que joueur, et puis avec le groupe Uncover.
Merci.
Voilà, on n'hésitera pas à se retrouver sur d'autres plateaux. Donc Alexis, pareil, oui. la vie continue, mais en conclusion, oui. Aujourd'hui, donc d'autres émissions, toujours debout, aux deux sports chauds, oui. L'engagement sportif, bien sûr, joueur, dirigeant.
L'engagement ne s'arrête jamais, de toute façon.
Bon, donc là, juste en conclusion, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voulez nous dire... Il y aurait tellement de choses à dire,
oui,
bien
oui,
sûr,
mais... Ce que je peux dire aux auditrices et aux auditeurs, c'est... Essayez de passer des bonnes fêtes de fin d'année et soyez tous unis, on en a tous besoin dans ces moments compliqués. Et vu qu'on est en période de trêve des confiseurs, profitez de vos proches, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait.
Voilà, j'aurais pas dit mieux. Merci du merci Alexis. Merci Jérémy. On va faire une petite photo pour les réseaux sociaux. Voilà, on va se quitter en musique avec Bob Geldof, hein, Do They Know It's Christmas. Voilà, j'ai rappelé un petit peu le contexte. Et en suivant, vous allez retrouver le magazine Les Jeunes Reporters Européens. C'était le 16 décembre dernier, où Julia, Karl, Enrique et Pécria, voilà, respectivement, venus de Pologne, Allemagne, Espagne et Géorgie, en ce moment en service volontaire européen à la MEBA. On va retrouver juste en suivant, et le temps de remercier bien sûr Christelle à la régie technique. Donc voilà, on souhaite à toutes et tous de passer de bonnes fêtes, et cette émission va être rediffusée, oui je ne l'ai pas précisé, demain jeudi et exceptionnellement vendredi. Allez, bonne fête à toutes et tous. Soyez fidèles aux deux radios. Comme l'a si bien dit Alexis, pensez à vos proches, vos amis. Allez, Bob Geldof, et en suivant, les jeunes reporters européens. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time. We let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Reporters européens, chaque mardi de 2h30 à 13h sur Eau Radio.
En partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Radio O2 sur la fréquence 91.3 FM. Dans l'émission Jeune Reporter Européen, en partenariat avec la Mission de l'Europe Porto-Aquitaine. Nous sommes des volontaires européens à la Mission de l'Europe dans le cadre de COP européen de sécurité. Et chaque mardi, nous avons l'opportunité d'animer une émission sur Radio O2 sur un sujet. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème très festif, le réveillon de Noël et les nouvelles années dans différents pays. Nous allons découvrir comment ces célébrations ont lieu en Allemagne, en Géorgie, en Pologne et en Espagne, et voir ce qui est spécial dans chaque pays. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Enrique.
Je m'appelle Julia et je viens de Pologne.
Je m'appelle Piklia et je viens de Géorgie.
Et je m'appelle Karl et je viens d'Allemagne.
Pour lancer l'émission, j'aimerais poser une question simple. Quelle est la tradition de Noël dans ton pays que les étrangers trouvent souvent surprenant ou étrange? Julia.
Salut tout le monde. Alors, pour commencer, je voulais dire que je suis très contente d'aborder aujourd'hui le thème de Noël parce que c'est une période vraiment très importante pour moi. Je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant à traiter, surtout dans une équipe aussi internationale que la nôtre. Mais bon, pour répondre à la question, en Pologne, une tradition qui surprend souvent les étrangers, c'est le partage de l'opłatek avant le repas du réveillon de Noël. Mm-hmm. L'opłatek est une fine hostie de pain azim. Et chacun en prend un morceau et puis on va vers les autres pour échanger des vœux personnels comme la santé, la paix, la réussite ou quoi que ce soit. J'en ai parlé avec des Français et ils m'ont dit que cela n'existe pas ici. Mais peut-être, est-ce que cela existe dans vos pays?
Je pense que non, pas en Géorgie.
Non, moi je n'ai jamais entendu parler de ça dans le cadre de Noël. Je connais que c'est la scène avec du vin et du pain. Avant Pâques, dans l'église, on partage du pain et du vin. Ça a l'air un peu ça, mais en Allemagne, on fait pas ça à Noël. Mais pour reprendre à la question de Enrique, je pense une tradition peut-être c'est un peu surprenant que le Père Noël il arrive le 24 décembre chez nous et on a les cadeaux le 24 décembre et le repas de Noël a lieu le 25 et on mange que un petit repas le soir du 24.
Merci. Ouais, en Espagne, c'est les 25. C'est un peu différent. Mais à quoi ressemble une table de Noël typique dans ton pays?
Une table de Noël typique en Géorgie est vraiment très riche et traditionnelle. Je pense que la viande est très importante, surtout le porc et parfois la dinde. On trouve presque toujours du khachapuri, qui est un pain géorgien au fromage chaud et fondu. On fait aussi le satsivi, du poulet avec une sauce aux noix, qui est très populaire à Noël. On mange aussi du prali, des légumes avec des herbes et des noix écrasées. Et pour le dessert, il y a des desserts traditionnels comme le gosinari, fait avec des noix et du miel, et la chuchrella, faite avec des noix et du jus de raisin.
Wow. Tout ça a l'air vraiment délicieux, surtout khachapuri. Wow, ça donne faim. Mais en Pologne, la table de Noël est aussi très généreuse, mais la grande différence, c'est que pendant les réveillons, elle est traditionnellement sans viande. Alors, parmi les incontournables, il y a barst. C'est une soupe de betterave servie avec ushka, qui sont les petits ravioles farcis aux champignons. Pour le dessert, on retrouve souvent les makovits, qui est un gâteau pavo. Et piernik, qui est simplement un pain d'épices. Je pense qu'ici, en France aussi, c'est assez populaire. Moi, j'adore les deux. Et en Espagne, quels sont les plats ou les desserts sur votre table à Noël? Pendant mon échange en Espagne, j'ai goûté los polvorones et du turrón. Et c'était vraiment, vraiment délicieux.
Oui, nous avons beaucoup de polvorones et de turrón, de nougat. Mais à Noël, notre table est traditionnellement remplie d'une grande variété de plats. Nous avons des fruits de mer, des fromages, des viandes, poissons, légumes et d'autres spécialités typiques de cette période. c'est un moment, c'est très important pour se réunir en famille, partager un bon repas tous ensemble. Cette année, ma table sera particulièrement remplie de fromages, pour continuer mon expérience française, mais aussi d'autres produits que ma famille apprécie beaucoup. Même si mon chien pourra en profiter de ces choses.
C'est bien pour ton chien.
Ouais.
En Allemagne, je pense qu'il y a beaucoup de viande. On a aussi des végétariens, pas dans ma famille, mais je pense que c'est plutôt en Allemagne. Mais il y a beaucoup de viande. Et chez nous, en mangeant toujours des lois avec des klöße. Je ne pense pas que vous connaissez ça.
Non.
C'est des pommes de terre avec du lot, mélangé avec du lot et des facules de pommes de terre et forme dans un boulette, dans un boule. Mais c'est vraiment délicieux. Et en plus, avec des choux rouges. Mais je pense que c'est intéressant parce que j'ai dit que le 24, on mange qu'un petit repas. Un sur trois Allemands, selon les statistiques, mange des salades de pommes de terre avec des saucisses, avec des frankfurters. Peut-être pour vous, c'est un peu bizarre, c'est juste un petit plat. Mais chez nous, on ne mange pas. Mais,
non, bien sûr que non. Nous avons d'autres choses, c'est surtout des fruits de mer et des choses comme ça. Mais non. Une autre question. Comment se passe l'échange des cadeaux chez vous? Plutôt sympathique, plutôt généreux, plutôt pratique. Julia?
Ok, chez moi, je pense que l'échange des cadeaux est plutôt pratique. Par exemple, dans ma famille, chacun dit ce dont il a besoin et pour éviter d'acheter des choses inutiles. Oui, c'est comme ça. Bon, cette année, j'ai demandé un livre de grammaire française. Alors, c'est utile. Alors, et chez vous, comment ça se passe?
Je pense que peut-être vous avez fait ça aussi, mais quand j'étais petit, nous avons écrit des listes des souhaits. On a fait des dessins, on a coloré des listes, on a donné à nos parents, ma mère, que je fais ça aussi. C'est de Noël, mais j'ai eu pas de temps. Chez moi, je n'ai rien demandé de particulier cette année. Mais moi, j'aime beaucoup offrir des cadeaux. Donc cette année, je ne mets pas des limites pour acheter des cadeaux pour ma famille.
Oui, pour moi, c'est probablement aussi un livre des choses utiles pour moi. Mais quelle chanson, quel son ou quelle odeur vous fait immédiatement penser aux fêtes, Péclia?
Je dirais la chanson All I Want for Christmas de Mariah Carey.
Mais bien sûr.
Oui, parce qu'à partir du 1er décembre, on peut entendre cette chanson partout. Et quand je dis partout, je veux dire vraiment partout. Dans les centres commerciaux, dans les publicités et même dans la rue.
Oui. Moi aussi j'aime bien cette chanson, mais je pense que pour moi ce serait surtout une odeur. Je pense que c'est des épices de pierniki, les petits pains d'épices polonais. À la maison, on les prépare ensemble avec ma mère et on les décore, puis on les distribue à toute la famille. Alors c'est vraiment pour moi les vrais parfums de Noël.
Pour moi, je pense c'est un peu on mélange un peu tout. Ça commence à faire froid chez moi en Dresden, j'ai vendu Dresden, et ça devient vraiment magnifique là-bas. La ville est décorée, toutes les rues, il y a des marchés de Noël, on se met à l'aise chez soi, on mange des pains d'épices, on se retrouve en famille, on fait tout des choses comme ça, et pour moi c'est on mélange tout et ça se développe l'esprit de Noël.
Oui, c'est très joli. Oui. Alors, maintenant, on vous propose une chanson polonaise de Noël qui s'appelle Jeden Dzień, ce qui signifie un jour. C'est un titre qui nous rappelle l'importance d'être ensemble et de savourer chaque instant pendant cette période si particulière. Alors, bonne écoute.
J'espère que vous avez aimé cette très belle chanson polonaise. Mais je voudrais savoir une autre chose. Est-ce que vous avez déjà visité les marchés de Noël de Bordeaux?
Oui, j'ai en fait visité le marché de Noël de Bordeaux le jour de son ouverture. Et je l'ai fait avec mes amis. Mes amis de Toulouse étaient venus visiter Bordeaux et c'était vraiment une belle coïncidence. Nous y sommes allés, nous avons goûté quelques plats et nous nous sommes simplement promenés dans le marché. Je dirais que c'est vraiment, vraiment bon.
Pour moi, oui. Malheureusement, je suis désolé, mais pour moi, c'est un peu difficile quand je viens d'Allemagne. Parce que, oui, je viens de Dresden. On a le plus ancien marché de Noël en Allemagne qui a, je pense, 600 années, donc qui est né 1434. Et c'est quelque chose de différent que le marché de Noël à Bordeaux. Toi, Enrique, tu as déjà visité?
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est bien, mais c'est toujours les Allemands comme ça.
Oui.
Oui, c'est bien. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait un bon marché de Noël?
Je pense que c'est un peu tout ça à la fois. L'ambiance de Noël, le stand, la nourriture, les chansons qui rendent le marché vraiment sympa à visiter.
Oui, je suis d'accord avec Pikria. Cette atmosphère avec les lumières, la musique, l'odeur des spécialités, c'est vraiment ce qui fait la magie de Noël. Mais je pense qu'il faut aussi le dire que les prix sont souvent très exagérés. Par exemple, ici, là-bas en Cracovie, on a un marché magnifique, vraiment magique. Mais certains produits coûtent parfois 2 ou 3 fois plus cher que dans un restaurant.
Oui, c'est vrai. J'ai juste une question. Le marché de Noël, chez vous, dans votre pays, c'est quelque chose de traditionnel
Moi, en Espagne, ce n'est pas super traditionnel. C'est une chose qu'on fait surtout dans les grandes villes, spécialement à Madrid, Barcelone et des lieux comme ça. Mais c'est vraiment petit, ce n'est pas comme ça. Probablement en Allemagne, mais c'est pour acheter des nourritures et aussi des petits figurines pour notre crash. Mais oui, ce n'est pas surtout traditionnel.
Oui.
Chez nous, je pense que c'est aussi comme en Espagne, on a aussi des petites figurines de la crèche, mais aussi clairement des pierogies, des barges, des plats traditionnels pour la Pologne dans cette période. Mais aussi, je pense que comme dans toute l'Europe, on a de la nourriture internationale comme churros ou des fromages français, alors c'est assez international.
Okay, je crois. Pour rendre à ta question, pour moi, c'est difficile d'écrire, mais c'est surtout, je pense, la décoration, le détail, l'amour du détail qui fait un bon marché de Noël. L'artisanat traditionnel, que ces petites cabanes ne sont pas juste des cabanes du bois, qui sont un peu différentes. Et aussi pour moi, parce qu'en Allemagne, ça fait plus froid dans l'hiver. Donc ça fait froid, c'est froid, mais quand on rentre dans un marché de Noël, ça réchauffe un peu parce qu'il y a souvent des repas chauds, des boissons chaudes, des choses comme ça. Donc oui, c'est aussi un mélange de tout.
Ok, oui. Mais c'est aussi important les Noël et les Nouvel An dans ton pays, ou est-ce qu'il y a des différences?
Je crois que les deux fêtes sont vraiment importantes. Et si on mesure cela par la façon dont elles sont célébrées, je dis qu'est le Nouvel An. Cela ne veut pas dire que Noël n'est pas important pour nous, mais le Nouvel An est célébré de façon plus festive. Je pense qu'il y a une explication logique à cela. Pour nous, le Nouvel An arrive avant Noël.
Ok. En Pologne, c'est plutôt inverse parce que Noël est généralement plus important et plus symbolique. C'est une fête des familles. Et le Nouvel An, bien sûr, on le fête aussi, mais souvent de manière plus légère, plutôt avec les amis, avec une soirée, des feux d'artifice, mais c'est tout. Et en Espagne, en Allemagne, comment ça se passe?
Je pense que Noël, c'est plus important que Nouvel An.
Ah ouais? Oui. Non, en Espagne, je pense que c'est un peu pareil. Bien sûr, l'Espagne, c'est un pays, c'est trop chrétien aujourd'hui, mais nous avons beaucoup de choses qui sont faites réellement spéciales la nuit de Nouvel An. Donc, je ne sais pas, c'est un peu pareil. Mais selon vous, quel pays autour de cette table fait Noël de la manière la plus originale?
Je ne sais pas pour la manière la plus originale, mais si on parle de la manière la plus différente, je dirais le Georgie, parce que contrairement à vous, nous célébrons Noël le 7 janvier, car nous suivons le calendrier juillet au lieu du calendrier grégorien. Comme le calendrier juillet a actuellement 13 jours de retard sur le calendrier grégorien, Noël en Georgie tombe le 7 janvier.
Oh, oui, c'est différent.
Oui.
Et comment ça se passe en Espagne?
Bon, en Espagne, c'est vraiment spécial, mais ça dépend dans la région, parce que nous savons, par exemple, en Catalogne, il existe toutes les traductions de Noël qui sont super traditionnelles et amusantes. Nous avons les caradios et les caraners. Les caradios, un bouche de bois avec un visage souriant que les enfants nourrissent pendant les semaines précédant Noël. La sur de Noël ou les jours de Noël, les enfants les frappant avec des bâtons en chantant une chanson traditionnelle afin qu'ils fassent tomber, ce n'est pas exactement comme ça, des cadeaux. Cette tradition symbolise le partage et la générosité de Noël. Et nous avons aussi les caraners, que c'est un petit figurine que l'on place dans la crèche de Noël. Il représente ces personnes accroupies en train de faire ses besoins. Même si cela peut surprendre, le caraner est un symbole de chance, de prospérité et des performances et fertilité pour l'année à venir. Mm-hmm. On dit que sa présence apporte bonheur et bon récolte. Mais oui, c'est toute tradition qui montrait la côte à la fois ludique et symbolique de Noël en Catalogne.
Vraiment.
C'est très original, clairement, oui. Mais aussi très drôle. Mais je pense qu'une tradition comme celle de Caratan Caratio ne fonctionnerait pas vraiment en Pologne. Nous célébrons Noël d'une manière très catholique et je crois que beaucoup de personnes pourraient être choquées et cela bouleverserait beaucoup de personnes.
Mmh. Oui, bien sûr. Et oui, une dernière question, Piclia. Et tu ne recours pas chez toi pour Noël cette année et tu vas faire la fête en France. Est-ce que tu sens plutôt nostalgique ou curieux de vivre quelque chose de différent ici en France?
Je dirais que je me sens plutôt curieuse de vivre quelque chose de différent que nostalgique parce que, pourquoi pas, c'est une nouvelle occasion pour moi de découvrir comment les gens célèbrent cette fête incroyable dans différents pays. Et pour moi, maintenant, c'est la France. Et pour Noël, je vais visiter mon ami à Toulouse. Donc, je vais vivre un vrai Noël français avec une famille française. J'ai vraiment de grandes attentes et j'ai hâte de le découvrir.
Ouais. Oui, en Espagne, il y a une chose que je veux mentionner aussi parce qu'il l'oubliait, c'est les tuiles récents qui sont super importants et c'est un symbole de bonne chance. Il faut les faire une fois par année parce que ces tuiles récents, c'est de bonne chance pour chaque mois. Si nous ne les faisons pas, on aura une mauvaise chance pour toute l'année et c'est super important pour nous. Et maintenant, on va écouter une chanson qui s'appelle Feliz Navidad. Je pense que tout le monde la connaît parce que c'est partout. C'est super célèbre et tout le monde l'a écouté, bien sûr.
Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom.
Merry Christmas.
Bon, j'espère que vous aimez cette chanson. Tout le monde pense que c'est une chanson espagnole, c'est super traditionnel, mais ce n'est pas vrai, c'est une chanson anglaise. Ça ne fait rien en Espagne. Et pour finir, je vais vous faire une autre question, et c'est quel message ou quel peu aimez-vous envoyer aux auditeurs pour cette fin d'année?
Je peux commencer, je pense. Alors, j'aimerais envoyer aux auditeurs un vœu simple. Je vous souhaite une fin d'année pleine de moments partagés avec la famille et des pères. Prenez le temps d'être avec les personnes qui comptent pour vous et que la nouvelle année vous apporte la santé, la joie et de beaux projets.
Oui, commencez la nouvelle année en bonne santé. Ne vous laissez pas trop stresser et passez des belles fêtes en famille, car c'est ça Noël, une fête en famille.
J'espère que vous avez réalisé toutes ou au moins la moitié, voire une seule de vos résolutions de Noël pour 2025. Mais je vous souhaite tout le meilleur. Profitez de cette fête spéciale avec vos proches et commencez la nouvelle année avec de nouveaux objectifs et la motivation.
Oui, et voilà, notre émission touche à sa fin. Si vous vous intéressez aux traditions de Noël et de Nouvel An, si vous souhaitez les faire découvrir à vos enfants, il y a plusieurs événements et activités ici à Bordeaux, mais ça sera à la française, pas à la polonaise, pas à la Géorgie, pas à l'allemand et pas à l'espagnol. Merci à vous et tout de nous avoir suivi aujourd'hui sur Radio EDU, un jeune reporter européen en collaboration avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Merci aussi à mes amis Picria, Julia, Carl pour les réponses.
De rien.
On espère que cette émission spéciale de Noël vous a plu et surtout qu'elle vous a donné envie de vous engager et de voyager et découvrir l'Europe. Et pour finaliser, vous vous souhaitez Feliz Navidad.
Besoch Fiont.
Benir Shoba.
Und fröhliche Weihnachten.
Et à très bientôt pour une prochaine émission.
Vous avez écouté les jeunes reporters européens en partenariat avec la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine.
Salut.
Ciao.
Tchuss.
Adios.